Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Un texte que nous connaissons, j'aimerais le méditer avec vous ce matin. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, s'il vous plaît. Et nous avons naturellement un des récits que nous connaissons bien, et j'aimerais lui apporter quelques commentaires. 18, verset 21. Il est question d'un thème essentiel, fondamental dans l'évangile, c'est-à-dire c'est le pardon. Alors on a peut-être tous une petite idée de ce que peut être le pardon. Nous l'attendons parfois de ceux qui nous ont offensés, et puis quelquefois, ceux que nous avons offensés attendent que, si c'est nécessaire, que nous lui demandions pardon. Alors, on va voir un peu ce que Jésus nous enseigne, parce que c'est un enseignement de Jésus qui marque. Alors, verset 21, « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 490, si ma mémoire est fidèle. » Ça fait beaucoup, hein ? Ouh là 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 là, c'est terrible. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. » Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié de moi ou envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette, sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Écoutez bien, de tout son cœur. Ce n'est pas « je te pardonne mais j'oublie pas », connaissez ? Mais de tout son cœur, sans regret, sans retour. Alors, nous avons un texte essentiel dans l'Évangile parce que c'est un message parabolique qui peut être compris par tout le monde. Mais je pense qu'il s'adresse aussi à tous ceux qui se veulent désirer être en imitation de Jésus. Tous ceux qui se veulent être ou qui se déclarent chrétiens, authentiques, non pas de nom en surface, mais vraiment profondément de cœur, être chrétiens comme l'Évangile nous enseigne de l'être. Et nous avons cette parole, c'est Pierre. Pierre, il est toujours c'est un homme hardi, Pierre. Il pose toujours des questions. Et quelquefois des questions qui peuvent déranger, mais elles nous dérangent pas parce que nous n'aurions pas ces enseignements devant ce gros problème qui est celui de l'offense. Qu'est-ce que nous pourrions faire? On essaierait peut-être d'arranger les choses à notre manière, mais on est dans une période où on n'est pas au stade du compromis, mais plutôt de la compromission, si vous comprenez la différence entre les deux mots. C'est-à-dire que c'est un petit bricolage, un petit rabibochage, mais qui n'est pas forcément dans la vérité, dans ce qui est juste. Alors c'est Pierre qui s'approche de Jésus et lui dit « Mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Probablement Pierre avait été humilié ou agressé ou je ne sais pas quoi, hein, ça pouvait arriver, hein, mais lui-même l'a fait également. Combien de fois il s'attendait à ce que Jésus lui donne une règle, une recette ou une méthode? Parce que normalement dans la société israélite, dans l'ancien Israël, on comprenait qu'on pouvait pardonner 3 fois et au bout de la 3e fois terminé. Hein. Alors on est loin du conte de Jésus, hein. Voilà. Et il dira, mais Pierre dira pour refaire bonne mesure et de dire, ben au moins je m'attends à une réponse de Jésus qui soit qu'il me fasse des éloges, qu'il me dise que c'est bien. Dit, mais sera jusqu'à 7 fois. Et Pierre est encore loin du compte. Et il va pas être déçu certainement quand Jésus va lui répondre, je te dis Pierre, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous avez une calculette? Bon. Alors, vous pouvez voir, hein, 490 fois. Je ne sais pas, celui que j'ai offensé, que je lui demande pardon, il va peut-être se lasser, que je lui demande pardon. Et que je revienne, et que je revienne, et que lui ne veuille pas me pardonner. Ça va être encore un autre problème. Bon, voilà, on est à peu près dans les chiffres. Et vous allez voir que ce sont des chiffres disproportionnés qu'on va aborder ce matin. Mais pour faire ressortir tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, et surtout, les dispositions et les motivations du cœur, c'est-à-dire ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, si c'est l'apparence, si tout ça c'est de l'habillage, ou véritablement c'est quelque chose de sincère et de vrai. Combien de fois pardonnerai-je? Je voudrais vous dire tout de suite, c'est que le pardon que Jésus nous enseigne, que la Bible nous enseigne, et particulièrement le Nouveau Testament, l'Évangile, hein, le pardon n'est pas une faveur accordée par l'offensé à l'offenseur, mais si nous comprenons bien, avec la compréhension que nous pouvons avoir de ce texte, c'est une obligation morale. Voilà. C'est une obligation morale par le fait que tout cela, eh bien, a une dimension spirituelle. Et vous avez remarqué, la fin, il est dit, mais c'est ainsi que mon Père vous traitera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. C'est pas la peine de faire du cinéma, c'est pas la peine de faire là toutes sortes d'effets de manche, non. C'est parce que, justement, il y a une dimension, et on va le découvrir, il y a un rapport entre les offenses, hein, l'offenseur et l'offensé, et puis également la dimension de Dieu, qui nous a pardonné, et sans retour, et à jamais, on le sait ça. Donc, c'est une obligation, et à notre tour, si nous savons pardonner, nous aurons, ou nous avons besoin maintenant, et bien d'être pardonné. Et combien quelqu'un qui a été offensé attend le pardon de l'autre qui l'a offensé? Combien, dans certaines situations qui dépassent peut-être le cadre de notre petite vie, mais combien le pardon est nécessaire, même quand il y a des choses qui sont gravissimes, hein, à travers les conflits mondiaux, à travers toutes sortes de choses, parce qu'autrement la guerre n'en finit pas. Hein. C'est toujours la même chose, on alimente le feu, on alimente la destruction, on alimente la haine, et malheureusement nous sommes dans une société aujourd'hui où des problèmes, soi-disant entre guillemets avec des armistices, n'ont jamais été bien réglés. On connaît les successions de guerres mondiales, on connaît ce qui s'est passé dans les Balkans dans les années 90, parce que entre les Serbes et puis les Croates, etc., etc., ça a été un véritable massacre. Et quand l'effort d'un premier temps, eh bien, ont été persécutés par les autres, par vengeance. Et ça, c'est quelque chose qui est abominable. Et les morts du précédent conflit ont engendré encore d'autres morts. Donc, c'est une voie sans issue. C'est une situation où, finalement, on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas une position de cœur, et pas d'élève ou une signature sur un traité. Alors, justement, je vous disais qu'il y a une dimension spirituelle, parce qu'il y a un beau texte dans la Bible que je voudrais simplement vous lire, c'est dans Éphésiens. Vous pourrez retrouver tout cela. Il est dit ceci. C'est au chapitre 4, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, et vous savez comment elles peuvent naître, ces méchancetés et puis tout le reste, disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est une obligation pour nous qui sommes chrétiens, ou alors nous ne le sommes pas. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, compatio, souffrir avec ceux qui souffrent. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est que nous avons la conviction que avant il y avait une vie, et que maintenant, parce que le Seigneur nous a appelés, il nous a transformés, il nous a changés, nous ne pouvons plus être ce que nous étions auparavant. Avec nos colères, avec nos animosités, avec nos revanches, avec nos vengeances, enfin avec toutes sortes de choses, hein, on peut mettre tout ce que l'on veut. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, le pardon et la négation du pardon, lorsque nous ne voulons pas pardonner en tant que chrétiens, c'est que nous ne croyons pas que Dieu nous a pardonné. Et ça, c'est grave. Ben, nous disons le contraire, puisque finalement, vous pardonnant vous, comme vous, vous avez été pardonné par Dieu, pardonné du ciel et sur la terre. Si vous n'acceptez pas, si vous ne voulez pas, eh bien à ce moment-là, c'est comme si vous n'étiez pas sauvé. Excusez-moi, les paroles sont abruptes, elles sont tranchantes, mais c'est pourtant ce que Jésus nous enseigne et ce que la Bible nous enseigne. C'est une obligation de pardonner, mais il y a un temps. On ne peut pas faire ça comme ça, par-dessus la jambe, comme on dit. Mais il y a un temps, il y a un moment. Il faut aussi que ceux que nous avons offensés soient disposés à accepter notre pardon. Maintenant, quand on a demandé pardon et que lui n'accepte pas, c'est plus votre problème. C'est le sien. Alors, on continue. C'est pourquoi, et Jésus le met sous forme de parabole, c'est toujours des images très faciles à comprendre, hein, naturellement. C'est pourquoi le royaume des cieux, les principes mêmes de cette vie nouvelle, hein, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il n'y a rien de plus logique que quand on est un monarque et que nous avons des ministres, des serviteurs, au moins qu'on demande compte de la gestion qu'ils ont faite du royaume. Donc, il a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Il les a fait venir, et puis il leur a dit, voilà, ceci, cela, je vous ai donné tel et tel poste, et maintenant vous me dites comment ça se passe. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Alors, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est une fortune, 10 000 talents, hein. C'est quelque chose qui est... Mais je donnerai les proportions. Quand je vous ai dit qu'il y a des chiffres disproportionnés, vous allez voir, c'est un peu ce que ça veut. Mais il y a déjà derrière un autre sens qui va se dégager par rapport, non pas à une dette d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais une dette de péché, de vie dissolue, de vie ratée, enfin toutes sortes de choses. Parce que notre capital vie, celui qui en est le détenteur et le créateur, le gérant, nous en sommes les gérants sur la terre, mais c'est Dieu qui est capable, qui est le seul qui puisse juger, pas nous, hein, en tous les cas. Donc, 10 000 talents, c'est quelque chose. On lui amène un type de ministre ou de serviteur, un homme haut placé, qui a eu des pouvoirs, qui avait des capacités, mais le texte nous révèle à un moment donné, on va le découvrir, qu'il est impitoyable. Ah ! Impitoyable, vous savez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que il ne se préoccupe pas finalement si c'est juste ou pas, pourvu que ses idées dominent, qu'il les impose. En quelque sorte, c'est un homme qui n'a aucune miséricorde, on pourrait peut-être même parler de cruauté et d'une forme d'abus de pouvoir. Donc, impitoyable. Et l'image qui nous est donnée par Jésus donne la réflexion et l'enseignement sur trois vérités que nous allons faire ressortir des vérités, trois leçons évidentes. La première, c'est la grandeur du pardon de Dieu, et il est question justement de 10 000 talents qui ont été détournés. Ça, c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui peut gréver l'économie du royaume. Et ça s'est pas fait en parlant au maître, hein, au roi, hein. Ça s'est fait parce que y avait des détournements, convoitises, quelque chose qui n'est vraiment pas beau. 10 000 talents. C'est une somme, écoutez bien, astronomique. Aujourd'hui, ce sont des millions et des millions d'euros. Astronomique, on peut dire ça. Et il est impossible pour ce serviteur indélicat, eh bien tout simplement, impossible de rembourser la dette. Cette dette, elle est colossale. À donner le vertige, on peut peut-être ajouter ça, à comparer, et il faut comparer cette dette, à notre dette devant la justice divine, c'est-à-dire le péché. L'humanité, si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, si elle en a les conséquences aujourd'hui à travers le bien et le mal souvent qui prédomine, ou compenser le mal par le bien, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des bonnes actions, mais toujours est-il qu'il y a naturellement cette équivalence, donc devant la justice divine, C'est impossible de rembourser la dette. C'est pas possible. Et surtout, tout simplement à vouloir régler cette dette par nos propres efforts et par nos propres moyens. Et nous en arrivons, tout simplement, eh bien, entre le système de la loi et de la grâce. Le système de l'Ancien Testament qui faisait rendre gorge jusqu'au dernier sou, et la grâce, où là, pour ceux qui sont véritablement, eh bien, conséquents, soucieux de vérité et de justice, où là, eh bien, c'est la grâce qui va prédominer. C'est plus l'Ancien Testament, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas cela, etc., etc., autrement c'est la punition. Ça, c'était avant. Maintenant, dans l'Évangile, et nous sommes nés dans l'Évangile en quelque sorte, avec l'esprit de l'Évangile, nés de nouveau, que maintenant c'est plus du tout la même chose. C'est que on peut avoir une dette colossale d'une vie dépravée, d'une vie souillée, d'une vie criminelle, d'une vie tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas de grands et petits péchés, c'est comme ça, tout simplement. Et que devant Dieu, si nous nous approchons de lui, et que nous lui demandons pardon, à l'instar de ce brigand sur la croix qui, au dernier moment, alors qu'il avait du sang sur les mains, que c'était un brigand notoire, que c'était quelqu'un qui était connu comme un malade, on pourrait dire, malade de meurtre et de tout ce que vous voulez, au dernier moment, il se tourne vers Jésus, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre là, à ce moment-là, il se tourne vers Jésus, il lui dit « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Est-ce que Jésus lui répond « Tu es un mécréant, tu mérites de mourir, tu vas souffrir, etc. etc. » Non, Jésus lui dit « Tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. » Pardon au dernier moment, in extremis sauvé. Ça, c'est le pardon de Dieu dans l'immédiat. Écoutez cette parole. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous savez que pour nos amis qui sont là ce matin, vous pouvez être sauvés à l'instant. Pas besoin de passer par un confessionnel, pas besoin de passer par des hommes, par une religion, par tout ce que vous voudrez. Si vous vous tournez vers le Seigneur en lui demandant pardon de vos péchés, il vous pardonne maintenant. Maintenant, c'est lui qui nous le dit et c'est à nous de le croire. Et une nouvelle vie va commencer parce que la repentance, pas la pénitence, c'est religieux ça, mais la repentance, c'est véritablement la clé qui ouvre la porte du salut, de la paix, de la joie et de notre communion avec le Seigneur. Ça, c'est clair. Donc, il n'est pas question tout simplement, eh bien, de nos propres efforts et de nos moyens. Je te rembourserai tout, on va le voir d'ici quelques instants. Parce que c'est de l'illusion, illusion religieuse, et c'est aussi des prétentions irréalistes. Et ce mauvais serviteur va dire, et nous l'avons en effet lu tout à l'heure, « Je te paierai tout ». Est-ce que quelqu'un, ici, ailleurs, dans le monde, hier et aujourd'hui, peut se prétendre de dire « Je paie tout ce que je dois ». D'ailleurs, ceux qui sont en liste rouge demandent toujours des rétrécissements de la dette. Ça passe devant les avocats, etc., etc. Bon, c'est pas notre affaire. Mais je te paierai tout. Je ferai tout pour payer ma dette. faut avoir l'argent. Mais entre ce que nous disons et ce que nous faisons, il peut y avoir un océan. Ça, c'est clair. Il est parce que cet homme ne peut se racheter ou tout simplement, eh bien là, réparer sa vie. Et je le dis encore, car le pardon de Dieu est basé sur sa miséricorde. Ouais. Si nous sommes pardonnés, si nous sommes de nouvelles personnes, nouvelles créatures, avec un état d'esprit changé, une mentalité changée, c'est pas parce que nous allons faire des efforts. C'est pas parce que nous allons mériter et que nous allons mettre devant Dieu nos qualités d'homme. Non, c'est pas ça. C'est parce que je crois que Jésus a payé à ma place et que lui, il a tout accompli pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Je suis sauvé, tout simplement. Tout est accompli à la croix et c'est basé sur la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que veut dire miséricorde? Il y a tout simplement le mot misère et corde, le mot cœur dedans. C'est finalement, eh bien là, en quelque sorte, Dieu prend en compte notre misère avec son cœur. Miséricorde, cordial, cœur. On l'a compris tout ça. Et la foi dans la rédemption de Jésus. C'est pas moi, c'est pas une église, c'est pas un pasteur, c'est pas ce que vous voudrez. On n'y peut rien, mais c'est Jésus-Christ. Pourquoi au cœur du christianisme, le message principal, c'est Jésus? Non pas seulement un Jésus qui est mort pour nous, mais un Jésus qui est ressuscité, qui a pris la victoire sur la mort en ressuscitant. Et ça, c'est en quelque sorte, eh bien, finalement, notre confession de foi, en quelque sorte. La clé de tout ça, c'est la grâce infinie de Dieu. Comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ, la grâce, et non le mérite et une bonne volonté. Il est plein de bonne volonté, notre ministre là, notre serviteur indélicat, devant le roi. Il lui dit « Je te paierai tout ». Et il se fait des illusions, il n'a même pas un sou. Il a tout dépensé pour son propre compte, pour lui-même, par son égoïsme et toutes sortes de choses. Il n'a pas pensé aux autres. Donc, la première, c'est la grandeur du pardon de Dieu. Pardonnez-vous, c'est une obligation, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Nous croyons à ce pardon. Et comment faire alors à ce moment-là? Si moi j'étais au bénéfice du pardon de Dieu, je peux me tourner vers un chrétien, vers un frère, une sœur et vers les gens du monde, parce que ça n'a pas d'importance. Ce sont des hommes comme moi, ils sont semblables à ce que je suis, et que je refuse de leur pardonner. Eh bien, c'est comme si je niais ce que Dieu a fait dans son plan de salut. Je mets les choses en comparaison, en quelque sorte. Le deuxième point, c'est l'aberration éhontée, sans conscience de la gravité, tout simplement d'un esprit sans pitié. Ah oui. On a eu peut-être dans nos moments difficiles des amis, des frères et des sœurs, lorsque nous étions vraiment mal pris, en souffrance d'une manière ou d'une autre, qui ont manifesté leur compassion pour nous. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Formidable. Une petite lettre, un petit mail, un petit appel téléphonique en disant « Mais on pense à toi. On pense à ce que tu vis, ce que tu traverses. » Et ça, ça fait du bien. C'est quelque chose qui vient véritablement du cœur. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas verser dans le cas contraire. C'est-à-dire que quand nous avons été au bénéfice de la compassion, de l'amour, des paroles généreuses, des paroles réparatrices. Comment moi, le jour où j'apprends qu'un tel ou un tel est lui aussi mal pris, peut-être différemment de ce que nous avons pu connaître de difficultés d'épreuves, et que quelque part mon cœur me pousse, même si quelquefois il m'a offensé, même si quelquefois il a dit des choses qu'il ne fallait pas dans mon dos, jamais devant, et que je peux lui téléphoner en disant « Mais écoute, voilà, je suis passé par là, je comprends, le Seigneur va t'aider, et puis il va te relever, et tu vas sortir de l'épreuve, et tu sortiras encore plus fort. » Ce serviteur est sans pitié, sans miséricorde. Et le verset 28 nous le rappelle, je voudrais simplement le relire. « Après qu'il fut sorti, donc, lorsqu'il était absous de sa dette, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit par le cou, non pas pour l'embrasser avec affection, parce que quand on embrasse avec affection, comprenez, l'autre il commence à rougir, il est strangulé. Hein. Ça c'est. Non, il le serre par le cou parce qu'il veut lui faire du mal. Hein. On a bien compris ce que ça voulait. En disant « Paie ce que tu me dois !» C'est une catastrophe. La comparaison est à faire entre 10 000 talents, c'est une énormité, on l'a dit tout à l'heure, et 100 deniers. Je vais vous donner les proportions, vous allez voir que c'est une montagne. 100 deniers, soit 1/600 millième de la grosse somme. Un denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Il avait donc là, vraiment peu de choses. Un denier par jour, 100 deniers, c'était une somme dérisoire. Certains commentateurs bibliques ont dit que ça représentait à peu près 70 centimes. La vie n'était pas chère à l'époque, hein. Aujourd'hui, il y aurait peut-être des manifestations, hein. 70 centimes. Bon, je voudrais pas vous exciter et puis dire on fait la révolution, hein. Maintenant, si on vous propose 10 000 talents, alors on va courir, hein. Mais bon. 10 000 talents, 100 deniers, c'est l'équivalent donc, tout simplement d'un jour de 1 denier, donc pour un jour de travail. On pourrait peut-être l'appeler cet homme impitoyable, on pourrait l'appeler le sans-cœur. Oui. Donc, ce sans-cœur est sorti, même sans dire merci. Et on va voir, parce qu'au verset 26, on va relire, « Le serviteur se jetant à terre, celui qui devait la grosse somme, hein, devant le roi, se prosterna devant lui et lui dit, « Mais Seigneur, aie pitié de moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le roi, le maître de ce serviteur, le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, il a même pas dit merci, dites donc. Ah, si j'avais une dette, je l'ai pas, soyez rassurés. Mais une somme énorme à payer, au moins celui qui m'en a fait grâce, je pourrais lui dire, bah écoute, pas du bout des lèvres, mais je te remercie quand même. Tu me tires une grosse épine du pied, hein. Il nous est pas dit qu'il s'est prosterné devant le roi. Il nous est pas dit qu'il a fait hommage au roi. Il nous est pas dit qu'il lui a dit merci. Il a dit, allez, ça y est, maintenant je suis libre, tout joyeux. Mais il va y avoir une contrariété quand même en cours de route. Parce que le troisième point, c'est l'attitude chrétienne. Notre attitude, supposons-le peut-être, l'attitude chrétienne face à l'injustice flagrante. Et des injustices, on peut en voir tous les jours. Il y a des grands débats dans notre monde où il y a des choses qui nous révulsent. On a vu ces deux jeunes filles là qui ont été tuées la semaine dernière. Et puis il y en a tant d'autres, ici et ailleurs. Quand je regarde les informations et que je vois ce qui se passe en Irak ou en Syrie, je me dis, mais bon, les adultes, ce sont les adultes. Mais il y a naturellement des innocents dans tout ça. À commencer par les enfants, à commencer par ceux qui sont âgés, à commencer par des gens qui ne prennent pas parti dans cette situation. Et de voir et d'entendre tout ce que nous entendons, ce sont des injustices qui révoltent naturellement. Alors, on parle de ces pays qui sont en guerre et c'est la guerre, malheureusement, mais ça se fait aussi dans nos pays où il y a naturellement un semblant de démocratie, d'ordre et tout ça, et il y a des gens qui, quelque part, se retrouvent dans des situations où il y a à pleurer, qui sont peut-être enfermés, ou situations révoltantes, situations choquantes. Le verset 29 et 30 nous dit ceci. À travers son compagnon se jetant à terre, donc c'est le deuxième, le petit, celui qui devait très peu d'argent, le supplier, dit Jean, aie pitié envers moi et je te paierai. Vous avez remarqué qu'il y a une petite différence, il n'a pas dit je te paierai tout, mais je te paierai. 70 centimes à rembourser. Moi je peux lui donner tout de suite. Et ça n'altérera pas mon budget, naturellement. L'autre dit je te paierai tout, quel orgueilleux. Le deuxième, qui doit peu, lui dit mais je te paierai. Et c'est pas le roi. C'est celui, vous avez compris, celui à qui on venait de faire miséricorde. « Je te paierai, » dit-il. Mais l'autre ne voulut pas, il se alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est sympa, hein? Premièrement, il l'embrasse très très fort, très très fort. Voilà, « Je t'aime. » Bon, il suffoque. Et puis à un moment donné, il lui dit, bah, après t'avoir un peu serré le cou, maintenant, eh bien moi, je vais t'emmener jusqu'à la prison et je vais mettre des charges sur toi pour que tu y restes le plus longtemps possible. C'est révoltant quand on lit ça. La conclusion de tout ça, eh bien, serait la suivante. C'est que il y a eu des témoins à tout cela. Il y avait des témoins qui étaient peut-être dans le palais, qui se trouvaient au moment où le premier a été jugé et qui avaient supplié, pardonne-moi mon roi, mon seigneur, et puis pardonne-moi, le roi lui dit, bah, ça y est, on tire un trait sur toutes tes facéties, tes indélicatesses. Hein. Alors on tire un trait. Et quand il est sorti, il trouve dans la rue un de ses compatriotes, et là il le boxe et il lui fait du mal. Mais il y avait des témoins. Et les témoins, il nous en est parlé. Vous savez, il y a toujours des témoins, il y a toujours des oreilles, il y a des yeux. Hein. Ça fait partie de la justice. Alors, pas des faux témoins, hein. Pas des gens qui sont à charge pour faire couler les autres, mais des gens qui vont rapporter honnêtement ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire un véritable témoignage. Parce que un faux témoignage, c'est un mensonge. Vous savez qu'il est puni par la loi. Hein. On raconte pas n'importe quoi. Ou quand on raconte, et je voudrais ramener le principe quand même chrétien devant nous, quand vous entendez quelque chose, entendez l'autre partie. Il y a un proverbe qui dit « qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son ». Mes frères et sœurs, moi c'est ce qu'on m'a enseigné lorsque j'avais un maître de stage, pour devenir pasteur, on me disait toujours, Alain, n'écoute pas qu'une version. Ça, c'était une règle. N'écoute pas une version, tu vas voir l'autre. Mais il faut du courage pour ça. Tu vas voir l'autre et quelquefois, il y a des surprises. Parce que comment peut-on juger, selon la justice et selon la vérité, quand on n'entend qu'un son, donc qu'une cloche? C'est pas péjoratif, hein, le mot cloche. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous. Si à l'extérieur, les gens le font déjà, parce qu'ils sont perspicaces, et quelquefois ils ont un souci de vérité peut-être plus que nous, eh bien nous devons le faire parce que c'est pas une option, c'est une obligation pour nous d'entendre ce que a dit l'un et ce qu'a dit l'autre. Et il n'y a rien de pire pour un pasteur quand il n'entend et qu'il ne veut entendre qu'une chose. Ça fait des divisions au milieu de nous. Après, le règlement, c'est une chose. Le règlement, je veux dire, les choses, comment elles sera réglées, c'est une chose. Mais au moins, il y a les deux versions. Mais avec ces deux versions, on peut prier, parce qu'il y a l'arbitre au milieu. Si vous priez parce que vous avez entendu une version et l'autre version, eh bien, vous demandez au Seigneur ce qui est juste et ce qui est vrai, parce que quelquefois, l'appréciation est très difficile et on peut se tromper même encore. C'est vers Dieu qu'il faut se tourner, et pas trouver des réponses hâtives. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Profondément attristés. Ouais, il y a des choses qui sont vraiment choquantes. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut mettre les pieds à côté. Tout le monde peut commettre des fautes. Tout le monde peut avoir des inadvertances. Moi, je vous dis Abraham, je vous dis David, je vous dis l'apôtre Pierre. Ils ont marché quelquefois à côté de leurs chaussures. Quand on voit Abraham, quand il est descendu en Égypte, il est remonté avec le pardon de Dieu. Parce que vraiment, ça lui a coûté cher, ça l'a brûlé. Quand on voit David, qui part en goguette, excusez-moi l'expression, mais avec Bathsheba, je peux vous dire que là, il accumule le mensonge, la dissimulation, le meurtre, toutes sortes de choses. Et pourtant, il revient vers Dieu en disant, Seigneur, je suis cet homme-là, tu me pardonnes, mais je crois que tu me pardonnes. Et c'est comme ça qu'il a pu garder sa royauté. Quand vous voyez Pierre, je ne connais pas cet homme-là en parlant de Jésus. Pierre, à un moment donné, va pleurer des larmes d'amertume en disant, non, c'est pas possible. Moi, homme, je ne peux pas garder dans mon cœur, finalement, eh bien, une telle attitude. Parce que ce sont des hommes qui sont changés et transformés. Ils ont le souci de la vérité. Ils étaient attristés, ces hommes. Et ils ont été racontés au roi en disant, mais tu sais, tu viens de le pardonner, lui. Mais il vient juste de sortir des pas du pas de ton palais. Et le premier qui passe, eh bien, il l'étrangle et il lui fait du mal parce que il lui doit une toute petite somme. Permettez-moi de dire que seul le roi des rois et le seigneur des seigneurs que nous connaissons peut faire justice en vérité. Et il n'est pas question pour nous, il n'est pas à nous de répondre par des représailles et de nous venger. Vous savez la règle dans l'évangile, ce que c'est Paul qui le dit dans Romains, chapitre 12. Il dit ceci, « Ne rendez pas le mal pour le mal, mais compensez le mal en faisant du bien. » C'est l'esprit du sermon sur la montagne. Mais quelquefois, nous sommes tellement énervés, tellement humiliés, tellement choqués, tellement douloureux, que quelque part, c'est la loi de œil pour œil et dent pour dent. Et je vous l'ai dit, quand on prend cette loi, il y a deux borgnes et deux édentés. C'est beau, hein? Puis il y avait votre dentiste à l'époque. Ça, c'est sûr. Mais c'est terrible. C'est terrible de ne pas nous venger. Je finis avec le verset 35. Qui est la conclusion de Jésus, ou verset un petit peu avant, le maître va faire appeler ce mauvais serviteur, il va lui dire méchant serviteur, méchant, hein. Le mot méchant, ça veut dire quelque chose, hein. Je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Usez de compassion les uns envers les autres, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. C'est ça? Me semble-t-il. Alors, celui qui est en prison est sorti et celui qui était dans la rue est rentré en prison. C'est curieux, hein, quelquefois, comme les choses sont véritablement faites. Eh oui, et le verset 35 dont je vous ai parlé, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » C'est pas « Je te retiens un chien de ma chienne ?» Si je trouve que c'est pas très beau, hein. Mais ce sont des usages de langage que l'on connaît. Tu sais, je te pardonne, ah, ça c'est sûr. Mais je t'oublie pas. Au premier tournant, tu vas voir ce que je te réserve. Un chien de ma chienne. Ah oui. Je te réserve une surprise. Que Dieu nous en garde. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Et voici un sérieux avertissement qui nous est donné. Et là, c'est l'apôtre Jacques, dans la fin de notre Bible, quand il est dit, donc chapitre 2, au verset 12, cette parole. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Merci Seigneur, parce que il y a un adjectif, une loi de liberté. C'est pas la loi des Mèdes et des Perses qui coupe la tête sans jugement, mais une loi de liberté. Parce que Dieu, à travers le pardon, veut nous rendre libres. Il veut nous affranchir, non pas de toutes les bêtises, de toutes les sottises, des méchancetés qu'on nous a faites, mais il veut nous libérer de nous-mêmes. Parce qu'un cœur qui refuse de pardonner, c'est un cœur qui est malheureux. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, parce que la miséricorde triomphe du jugement. Vous savez que, d'après les psychologues, il y a une infinité de gens dans nos pays, ici, mais pays occidentaux, qui souffrent de troubles, et ça c'est reconnu, de maladies psychosomatiques, parce que le problème n'est pas au niveau des organes, au niveau du corps, au niveau matériel, mais le problème est un problème intérieur, un problème de l'âme, un problème de psychisme, de psycho, parce que finalement, eh bien, à l'intérieur, ils sont malades, et ça génère toutes sortes de souffrances, et ils ne le savent pas, les médecins, vous pouvez aller les voir 100 fois en disant, mais monsieur, madame, je ne trouve rien, je vous ai ausculté des dizaines de fois, je ne trouve rien. Mais par contre, on s'aperçoit que le problème, il est là à l'intérieur, tout simplement. Les gens sont malades parce que il y a des choses qu'il faut régler et qu'ils n'auraient même pas la pensée. Peut-être à cause d'une haine, à cause d'un ressentiment qu'ils ont contre quelqu'un. Et ça, comment on peut dire, vous m'excuserez l'expression, hein, ça les bouffe. Bon, combien de fois nous avons eu des gens qui sont venus nous voir, même des chrétiens, qui nous disent « mais ça tourne en rond dans ma vie, je n'y arrive pas ». Et puis ben, quand on va un peu plus loin, parce que c'est le travail du pasteur, hein, de dire « mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez du ressentiment contre quelqu'un ?»« Ah oui, ah oui, oui, ma belle-mère !» Elle est gentille, hein, la mienne. Bon, quand vous verrez ma belle-mère, vous lui direz « j'ai bien parlé d'elle ». Mais sa fille est là, alors donc, elle parle entre elles. Hein. « Car le jugement est sans miséricorde. » Pour qui n'a pas fait miséricorde, mes frères et sœurs, si vous ne voulez pas faire miséricorde, si vous ne voulez pas apporter le pardon à quelqu'un qui vous dit « je te demande pardon », pardonnez, parce que c'est vous qui allez être enfermé après, dans votre prison intérieure. Et à chaque fois que vous verrez de loin ou de près, cette personne vous changerait de trottoir en disant « je ne veux pas lui parler, je ne veux pas la voir », etc., etc. Mais c'est vous qui vous rendez malade, parce que finalement, eh bien, ce péché-là, mais ça vous retombe dessus. La miséricorde triomphe du jugement. Celui qui ne sait pas, ou celui qui ne veut pas pardonner, ne connaît pas, et ça je parlais des chrétiens, ne connaît pas le prix et la joie d'être lui-même pardonné. Mes frères et sœurs, si vous regardez quelque chose au fond de votre cœur en disant « non, je ne céderai pas, je garderai, et ce sera ouais, tête de turc », eh bien, vous faites la preuve, mes frères et sœurs, vous faites la preuve que vous ne confessez pas que vous avez été pardonné par le Seigneur. Ça c'est quand même c'est quand même fort, hein. C'est une illusion, parce que la vie chrétienne, la communauté chrétienne, ça doit être une communauté de pardon réciproque, donc d'amour. Bien sûr, quelquefois, on reçoit des coups de poing dans les yeux, hein, ou dans le nez, etc., etc. Peut-être par des gens que voilà, qui sont des chrétiens. Bon, c'est pas bien, ça c'est sûr que c'est pas bien, mais il faut régler le problème à un moment donné. Il faut régler le problème, il faut pas que ça s'envenime, parce qu'autrement, c'est une spirale, et c'est pas une spirale qui monte, hein. Ça descend et ça vous emporte. Et ça, c'est une des causes où quelquefois, nous, pasteurs, on a beaucoup de problèmes dans les églises. Parce que bon, voilà, on ne se parle plus, on ne veut plus, etc., etc. Alors, c'est ne pas connaître le prix et tout simplement la joie. Parce que quand nous aurons besoin, finalement, nous, eh ben, on nous fera ce que nous avons fait autre. Peut-être pas avec la même personne. Mais ce que vous avez fait, eh bien, ça vous sera rendu d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas nous. Ça viendra d'en haut. Pour que nous apprenions la leçon de la compassion, de la miséricorde et de faire grâce comme nous, on nous a fait grâce. Et pour certains, c'est de l'orgueil. Pour d'autres, et les deux en même temps, c'est tout simplement eh bien, de l'ignorance. C'est une attitude criante de vérité d'un cœur fermé et inintelligent à la pensée spirituelle. Je ne veux pas dire que c'est une question cérébrale, une question d'intelligence matière grise. Ce qu'on le sait, mais bon, après, maintenant, quand elle vivre, c'est autre chose. Mais c'est une intelligence spirituelle. C'est que le Saint-Esprit n'a pas pu percer ce cœur de pierre. Il n'a pas pu percer, finalement, eh bien, notre conscience pour véritablement nous donner la dimension de la vie de l'Esprit, qui est l'amour et le pardon. Et c'est incompatible avec le salut. Incompatible avec le salut qui nous a offert gracieusement par Dieu Et à chaque homme, nous sommes au bénéfice de ce pardon, quelle que soit sa dette, quelle que soit sa faute et quelles que soient ses erreurs. 10 000 talents, 100 deniers. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et j'aimerais que nous ayons une prière commune ce matin. On va la partager ensemble, quelques instants, qui tourne autour du mot pardon et de pardonner, le verbe de pardonner. Pardon, c'est un nom propre. Pardonner, c'est un verbe. Et pardonner, le verbe en langue française, et je pense que c'est dans certainement d'autres langues, je l'ignore, mais pardonner, donc c'est un verbe, c'est une action. Je fais, je danse, je joue, j'agis, donc c'est une action. Eh bien, le pardon, c'est pas seulement un nom, c'est aussi une action. Et si nous demandons au Seigneur ce qui nous empoisonne, ce qui nous empêche, ce qui est toxique, si nous demandons ce matin, dans toute la discrétion que nous pouvons avoir avec nous-mêmes et notre relation avec le Seigneur, que nous dire, Seigneur, délivre-moi, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à lui pardonner, j'arrive pas, je voudrais que maintenant, eh bien, ma vie soit transformée, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait au moins un contact pour demander pardon, parce que vous savez les conséquences, je l'ai dit, vous vous empoisonnez vous-même, vous vous détruisez vous-même, et quelquefois les églises qui sont malades, c'est elles sont malades par défaut de tout cela, parce que refuser de pardonner stoppe la progression spirituelle, ça c'est sûr. Il y en a qui font du surplace parce qu'ils n'ont pas réglé les problèmes depuis 10 ans, 20 ans, etc. Que ce soit avec des chrétiens ou avec des gens de l'extérieur, des gens de leur famille peut-être. Refuser de pardonner génère le tourment dans votre vie, dans votre cœur et dans votre esprit. C'est la nuit, c'est le jour, etc., etc. Ça revient quelquefois d'une manière ou d'une autre. Et puis moi je pense que refuser de pardonner accentue les conflits. Et un conflit qui peut durer jusqu'à la mort. Et c'est bien dommage. Parce que pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Merci Seigneur, on va prier si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que la notion de pardon est illustrée d'une manière capitale, essentielle et solennelle à travers Jésus à la croix du calvaire. Dieu nous a donné Jésus, parce que c'est lui qui a pris le prix de nos fautes, de nos erreurs, de nos inepties, de nos inadvertances. Il a pris, il est mort pour moi, il est mort pour que je puisse être pardonné. Et Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que moi je veux te le dire, je crois à ton pardon. Mais si je crois à ton pardon, la réalité de ma vie spirituelle, c'est aussi de pardonner aux autres qui m'ont fait mal, qui m'ont blessé, qui m'ont humilié, qui m'ont battu, qui ont véritablement fait des choses qui étaient vraiment, eh bien, contraires au bien. Seigneur, nous voulons croire, Père éternel, que moi, je voudrais être toujours prêt à dire pardon ou accepter plutôt le pardon de quelqu'un qui vient présenter ses excuses et présenter ses fautes. Seigneur, tu nous aides à être toujours prêt à te dire « je te pardonne, mon ami, mon frère, ma sœur ». Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, ce pardon, il ne peut venir que par l'offenseur qui, lui, puisse prendre conscience qu'il a commis quelque chose qui n'était pas bien. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier de ce que tu veux éclairer l'un et de ce que tu veux éclairer l'autre. Seigneur, moi je te prie pour les conflits, je te prie pour les dissensions, je te prie pour les divisions, quelle que soit leur nature. Je te prie, Seigneur, lorsqu'il y a une mésentente, il y a de mauvais sentiments ou du ressentiment dans le cœur de l'un ou dans le cœur de l'autre, et nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que si je crois mon salut valable, et c'est un salut éternel, eh bien, à ce moment-là, comme Jésus est mort à la croix, et qu'il nous a donné cette parole extraordinaire quand il était à souffrir sur la croix, quand il a dit tout simplement « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Eh bien, nous croyons, Père éternel, que tu pardonnes les ignorances. Mais, Seigneur, tu pardonnes aussi lorsque nous sommes conscients et que nous pouvons, mais que nous ne voulons pas. Alors, Seigneur, interviens et révèle-toi. Je te demande, Père éternel, et ça a toujours été notre souci dans cette église et ailleurs, c'est que toi-même, tu viennes guérir l'église. Seigneur, que véritablement l'unité entre nous et la paix de Christ soient véritablement, eh bien, au milieu de ton peuple. Et nous te bénissons et nous te remercions parce qu'à chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, eh bien, nous nous souvenons que Jésus a donné sa vie pour être que nous soyons pardonnés. Et nous te bénissons et nous te remercions. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.